Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plus de 8500 personnes déjà enterrées à Goma depuis l'occupation de la ville par le M23, annonce le ministre de la Santé publique. Dr Roger Kamba a révélé ces chiffres hier dans un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias. Il n'y a pas d'électricité dans plusieurs coins du Maniema depuis plus de 10 jours. Situation consécutive à la grève des agents de la Sakima à Kalima. Ils réclament plusieurs mois d'arriéré de salaire. Du côté de l'Ituri, c'est la carence en eau potable au centre commercial de Boulé, un centre qui accueille actuellement plus de 30 000 déplacés. Et puis, Bruno Le Marquis est l'invité de ce midi. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC fait le point sur le plan de réponse humanitaire 2025. Il parle également des conséquences de la suspension des actions de l'USAID sur la RDC notamment. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord, ces chiffres alarmants. Plus de 8500 personnes déjà enterrées par les agents du ministère de la Santé et la Sécurité civile depuis l'occupation de la ville de Goma et plus de 30 corps se trouvent encore dans les morgues. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a livré ces chiffres au cours du briefing de presse co-animé hier jeudi avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Concernant le nombre des blessés, le ministre de la Santé affirme que le carnage continue. Mais le dernier chiffre que son ministère a pu obtenir hier, c'est plus de 5500 blessés. On écoute le ministre de la Santé publique dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un ganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, où on essaye de savoir quelles sont les informations qu'ils nous donnent. Donc nous essayons de trouver des solutions, déjà pour ne pas vraiment vous dire quelles sont ces équipes qui nous donnent les informations, mais ce sont des équipes du ministère de la Santé, parce qu'on doit protéger leur vie. Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. Alors, en termes donc de chiffres, c'est ça. Plus de 8500 personnes enterrées. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Et ça, c'était avant-hier. Nous avons les derniers chiffres de ce matin de 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour.
Pendant ce temps, le président du Sénat remobilise la population de Lubumbashi pour apporter son soutien aux FARDC et aux combattants Wazalendo afin de barrer la route à l'ennemi. Hier, Jean-Michel Samalukonde a rencontré les différentes couches de la population pour prêcher l'unité, la cohésion et la solidarité nationale. Pour lui, cette guerre imposée à la RDC est purement économique à cause de la convoitise de nos minerais et le risque de la balkanisation qui pèse sur notre pays. Ses hôtes se sont engagés à s'investir chacun à son niveau pour barrer la route à l'ennemi, le compte-rendu de Jean Gandou.
Cette rencontre a eu lieu au chapiteau érigé pour la circonstance au gouvernorat de province. Le président du Sénat a été à l'écoute de ses interlocuteurs pour avoir leur entendement de la situation qui prévaut dans l'est du pays et solliciter ainsi leur adhésion à la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Pour Samalukonde, il importe que tout le monde soit derrière le commandant suprême des forces armées pour barrer la route aux envahisseurs.
Cette guerre, elle n'est pas faite contre le président Félix Tshisekedi. Elle est faite à toute la République démocratique du Congo, dans le but d'entamer notre souveraineté avec des très grandes menaces de balkanisation. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation, nous tous, de nous tenir derrière lui pour le soutenir et l'accompagner. Lui, le commandant et chef suprême des armées.
Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a, au-delà de son appel à l'unité, plaidé pour que le gouvernement accorde certains carrés miniers aux jeunes, car le manque d'occupation peut les pousser à être à la merci des ennemis de la République. Pour sa part, le président de la jeunesse s'est engagé à mobiliser les jeunes pour leur enrôlement dans l'armée, et au gouverneur de province d'ajouter que tout le monde doit regarder dans la même direction pour défendre la patrie qui est en danger. Et pour cela, il est plus que temps de taire les divisions internes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Pour sa part, le gouverneur du Tanganyika appelle la population à se mobiliser contre l'agression rwandaise et à soutenir les forces armées. Christian Kitungwa a lancé le même appel hier au cours d'une activité tenue à Kalemi en présence des représentants des différentes couches de la population. Paulin Munanga, reportage.
Pour le gouverneur du Tanganyika, il est question d'un réarmement moral des FARDC et des Wazalendo en cette période où la RDC est agressée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Il insiste sur le fait que notre pays restera un et indivisible et que l'unité nationale reste la clé pour surmonter les défis sécuritaires. Christian Kitungwa.
Le Tanganyika, c'est un verrou pour le grand Katanga. Le message pour nous, soutenir nos voyants FARDC, soutenir nos voyants Wazalendo qui se battent jour et nuit pour notre bien.
Pour sa part, le colonel Charles Yav Magita, chargé des services d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC à la 22e brigade, appelle la population au patriotisme et à la vigilance.
Nous voulons que la population soit vigilante. Ouvrez les yeux, nous sommes en guerre. Le pays est attaqué par les Rwandais et il ne faut pas accepter que ces Rwandais viennent vous ravir ce qui vous appartient. Alors soyons tous derrière les chefs de l'État et derrière les forces armées. La population civile doit collaborer. Cette population doit dénoncer la présence de l'ennemi dans leur maison.
Le gouverneur du Tanganyika a en outre exhorté les jeunes à s'enrôler dans l'armée.
Entre-temps, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a communiqué hier les directives ministérielles permanentes aux officiers militaires des différentes unités des FARDC. C'était lors d'une réunion tenue à Kinshasa. À cette occasion, le patron de la Défense nationale a fait savoir que ces directives visent à renforcer la capacité de réponse de l'armée face aux menaces actuelles et à garantir une prise de décision plus cohérente et ordonnée au sein des unités. Vice-premier ministre Guy Kabombo dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
J'ai décidé de mettre à votre disposition les 12 premières directives ministérielles permanentes. Il s'agit de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces documents ne sont pas à ranger dans les tiroirs, mais doivent vous guider dans la prise des décisions de manière sensée, ordonnée et cohérente. Vous avez donc l'obligation de les dupliquer pour vos différentes unités subordonnées.
Cette rencontre avec les chefs des unités de commandement est intervenue au lendemain de la tournée du vice-premier ministre de la Défense dans l'espace Kassai où il a mobilisé les jeunes à servir sous le drapeau. Et dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC a échangé hier à Brazzaville avec le président Denis Sassou Nguesso. Les deux parties ont échangé sur l'implication éventuelle du président de la République du Congo pour mettre fin à la crise dans la partie orientale de la RDC à travers le dialogue. Pour Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, l'expérience du président Sassou Nguesso dans la résolution de certaines crises en Afrique peut faire progresser le processus entamé par la CENCO et l'ECC. Monseigneur Donatien Cholet, dans cet extrait choisi par Blaise Makassi Nandes.
Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Séléka et en ce qui concerne notre pays. Il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodjo, c'est tous les dimanches que Eden Kodjo venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de et vraiment, c'est la sagesse que nous avons tirée ici.
Revenons sur la suspension de l'aide à l'aide américaine. Bruno Le Marquis parle d'une polycrise car la RDC était le principal bénéficiaire de cette aide. Ainsi, sa suspension est considérée comme une autre crise humanitaire qui s'ajoute à celle qui existait déjà. Le coordonnateur humanitaire en RDC explique dans cet extrait choisi par Jeff Opela.
Ça va être une année particulièrement difficile pour un certain nombre de raisons. C'est pour ça que nous avons adopté le mot de polycrise. C'est-à-dire, c'est pas une crise compliquée, c'est plusieurs crises en une. Et la question des financements, c'est vraiment une crise vraiment importante pour 2025. En ce qui concerne l'aide des États-Unis d'Amérique, en effet, en 2024, leur plus gros programme d'aide humanitaire au monde était la RDC. Avant l'Ukraine, avant le Soudan, avant d'autres pays en crise, et ils avaient financé 910 millions de dollars sur les 1,3 millions de dollars que nous avions mobilisés, c'est-à-dire 70%. Non seulement c'était la plus grande aide américaine au monde du point de vue humanitaire, mais c'était également le pays où nous étions le plus dépendants de l'aide américaine, avant tous les autres pays. C'est-à-dire que cette suspension des fonds américains a un impact extrêmement, extrêmement important sur la RDC.
Je vous le disais en titre, la province du Maniema est dans le noir depuis plus de 10 jours. Situation consécutive à la grève des agents de la Sakima à Kalima. Ils réclament le paiement de plusieurs mois de leur salaire, selon le directeur provincial de la Société nationale SNEL Maniema. Selon nos sources, depuis leur nomination par le président de la République, tous les responsables de la Sakima résident encore à Kinshasa, ce qui rend difficile le travail à distance. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Bien que n'y ait pas de retard de paiement à Sakima, la SNEL Maniema s'est dit être victime et incapable de servir comme il faut sa clientèle. Édouard Moulamba.
Nous sommes dans le noir, il y a peu de temps. Kalima, les travailleurs ont décrété une grève pour raison de non-paiement salaire. Et à cet aspect, la SNEL Maniema est victime pendant que nous nous sommes alimentés par la centrale de Luchurukulu. Nous avons entrepris des démarches au niveau de l'autorité provinciale. Et celle-ci nous a rassuré de son appui par rapport à la solution quant à cela.
Pour l'élite de Kindu, les responsables des Sakima doivent s'installer au Maniema pour bien suivre la situation de la société et non gérer à distance cette grande société. Ngongo Kitenge.
Quand nous avons la ville sans électricité, vous savez, il y a beaucoup de dangers. Mais je déplore une chose. Et les DGA de la Sakima, ils n'ont jamais été à Kalima. Ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Ils restent à Kinshasa. Je viens de l'apprendre que la direction générale de la SNEL à Kinshasa paie des factures à la direction générale de la Sakima. Et cela chaque mois. Et cet argent n'est pas rétrocédé au niveau de la base au niveau de la Sakima pour qu'on paye les agents. À l'autorité suprême du pays, s'ils peuvent nous écouter, ces gens-là, pour la province de Maniema, ils ne sont pas bénéfiques.
Sachez que cette question a été au centre d'une rencontre avec le directeur provincial de la SNEL, le Zoli du peuple et les gouverneurs de province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, l'eau est devenue rare, une denrée rare au centre commercial de Boulé, dans le territoire de Djougou. Ce centre accueille actuellement plus de 30 000 déplacés, les quelques puits aménagés d'eau potable ne répondent pas aux besoins des autochtones et de leurs hôtes. Un bidon d'eau se vend actuellement à 250 francs congolais, un montant exorbitant pour ces déplacés qui bénéficient parfois de la générosité de certains habitants pour se procurer de l'eau. Au reportage de Isaac Remoyope.
Les centres commerciaux de Boulé hébergent plus de 100 000 personnes composées des autochtones, des marchands et des clients qui fréquentent les marchés communautaires hebdomadaires, des déplacés venus du groupement de Djaïba et ceux du site de la plaine des Savo qui viennent chaque jour à Boulé Centre pour se procurer de l'eau. Ils sont obligés de passer toute une journée. Parfois, les eaux tarissent à cause de la forte demande. Les sources non aménagées qui servent pour les travaux des ménages à la périphérie de cette agglomération sont inaccessibles à cause de l'insécurité, ce qui augmente la souffrance de la population, comme l'a dit le coordonnateur de la société civile locale, Eric Lodjunga.
Avec l'augmentation et surpeuplement, t'as des familles et d'accueil voulaient asseoir aussi avec ces autochtones. Vraiment, il y a l'insuffisance des sources d'eau potable.
Pire encore, pour les déplacés de guerre qui n'ont pas de moyens pour se procurer de l'eau, dont un bidon de 20 litres est passé de 150 francs à 250 francs congolais, à moins de bénéficier de la compassion de certains habitants pour avoir juste un petit bidon d'eau à boire en famille.
Ils ont la difficulté d'aller puiser, nous allons avec nos femmes pour l'aider là-bas. Si on a des bidons, nous donnons l'unique pour elles et l'unique pour nous. Ils n'ont pas des moyens, ils n'ont pas l'argent.
Pour eux, le rétablissement de la paix dans les territoires de Djougou par le gouvernement constitue une panacée à toutes leurs souffrances. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale. Un Tunisien condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la peine la plus sévère possible en France pour le meurtre des 3 personnes dans une basilique de la ville de Nice sur la Côte d'Azur en 2020. C'est l'une des multiples attaques de cette année-là liées à l'extrémisme islamique. Brahim Aouissaoui, 25 ans, a été inculpé d'assassinat terroriste et de tentative d'assassinat terroriste. Il a reconnu sa responsabilité dans l'attentat lors du procès à Paris, même s'il avait déclaré ne se souvenir de rien. Depuis lors, il a expliqué qu'il voulait venger les musulmans tués dans le monde par les pays occidentaux. Et puis, sachez qu'il y a une légère amélioration de l'état de santé du souverain pontife, rapporte le Vatican. Atteint d'une double pneumonie, le pape François a repris le travail après avoir reçu l'Eucharistie dans la matinée de jeudi. Les médecins indiquent toutefois que son pronostic reste réservé.
L'invité.
Il s'agit de Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC. Il fait le point sur le plan de réponse humanitaire 2025 et parle également des conséquences de la suspension des actions de l'USAID cette année sur la RDC notamment. Bruno Lemarquis est avec Jeff Opela.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous venons d'assister au lancement du plan des réponses humanitaires 2025 en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de cette activité?
Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, comme chaque année, à peu près chaque mois de février, chaque année, on lance le plan de réponse humanitaire. Cette année, il a un nouveau titre. C'est le plan de réponse aux besoins humanitaires. Les grands chiffres à retenir pour cette année, c'est qu'il y a 25 millions de personnes, de Congolais, de Congolaises qui sont dans le besoin, qui ont des grandes vulnérabilités dans le pays, notamment tous les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'est le plus grand nombre de personnes au monde qui souffrent d'insécurité alimentaire. Sur ces 25 millions de personnes, nous avons fait un travail de priorisation et donc le plan de réponse vise à apporter une assistance à 11 millions de personnes. Les 11 millions de personnes les plus vulnérables, la plupart d'entre elles vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces 11 millions, on compte tous les déplacés internes qui, les derniers chiffres que nous avons eus, c'est 7,8 millions de personnes déplacées internes. Parmi les 11 millions, il y a aussi des personnes qui sont victimes des catastrophes, des inondations, des glissements de terrain, etc. Ces 11 millions de personnes vivent surtout donc dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika. Le montant total financier nécessaire pour répondre aux besoins de ces 11 millions de personnes s'élève à 2,5 milliards de dollars pour 2025. C'est à peu près le même montant que pour 2024. Juste pour dire qu'en 2024, nous avions réussi à mobiliser de la part de la communauté internationale le montant le plus haut jamais mobilisé dans cette crise de plus de 30 ans. 1,3 milliard de dollars avait été mobilisé en 2024, ce qui avait permis d'apporter une assistance, soit complète, soit partielle, à 7,1 millions de personnes. Voilà, donc ça c'est les grands chiffres de ce plan.
Monsieur Bruno Lemarquis, vous avez loué l'apport de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle. Mais nous savons aussi que l'USAID a suspendu ses actions dans les mondes dont fait partie la République démocratique du Congo. Et vous avez dit en 2024, cette Agence des États-Unis pour le développement international a contribué à elle-même à la hauteur des 70% pour la réponse humanitaire 2024. Et maintenant que cette agence n'est plus là, comment comptez-vous vous y prendre?
Alors, ça va être une année particulièrement difficile pour un certain nombre de raisons. C'est pour ça que nous avons adopté le mot de polycrise. C'est-à-dire, c'est pas une crise compliquée, c'est plusieurs crises en une. Et la question des financements, c'est vraiment une crise vraiment importante pour 2025. Il y a un certain nombre de pays, avant de parler des États-Unis, il y a un certain nombre de pays, États membres, pays donateurs qui ont également annoncé des baisses de leur budget d'aide publique au développement et l'aide humanitaire rentre dans l'aide publique au développement. Donc c'est une série de mauvaises nouvelles au niveau des financements. En ce qui concerne l'aide des États-Unis d'Amérique, en effet, en 2024, leur plus gros programme d'aide humanitaire au monde était la RDC, avant l'Ukraine, avant le Soudan, avant d'autres pays en crise, et ils avaient financé 910 millions de dollars sur les 1,3 millions de dollars que nous avions mobilisés, c'est-à-dire 70%. Non seulement c'était la plus grande aide américaine au monde du point de vue humanitaire, mais c'était également le pays où nous étions le plus dépendants de l'aide américaine, avant tous les autres pays. à 70%. C'est-à-dire que cette suspension des fonds américains a un impact extrêmement, extrêmement important sur la RDC. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer par la suite, si certains de ces financements vont être réautorisés. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que beaucoup de partenaires sont impactés, beaucoup de partenaires sont en attente d'une réponse, si les activités vont pouvoir reprendre ou non. Certains partenaires n'ont pas les reins assez solides pour tenir en attendant cette réponse, donc il y a des partenaires qui doivent licencier du personnel, etc. Voilà, ça a des impacts extrêmement importants et on commence à avoir certaines analyses plus fines, certains chiffres que nous partagerons quand tout sera prêt. Mais par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine du VIH-SIDA, dans le domaine de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles, on voit déjà l'impact sur des vies humaines, ouais, sur des vies humaines de ces baisses de financement, parce que de nombreux services doivent s'arrêter.
Monsieur Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. Radio Okapi, vraiment merci.
Merci beaucoup et toujours merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Bruno Lemarquis répondait aux questions de Jeff Opela. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda, à la mise en onde Alain Goy. Merci d'avoir été des nôtres.